Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, deuxième partie d'Europe Soir, nous sommes avec Guylaine Hottenheimer, rédactrice en chef à Challenge, bonsoir.
Bonsoir.
La constitutionnaliste et politologue Anne-Charlène Bézina, bonsoir.
Bonsoir.
Et l'essayiste et ancienne secrétaire d'État Jeannette Bougrabe, bonsoir.
Bonsoir.
Pas de joueurs insoumis, ni socialistes, ni écologistes sur le terrain. Ce soir, l'équipe de football de l'Assemblée nationale joue un match en ce moment au profit de la lutte contre le cyberharcèlement. Et pour la première fois, il y a des joueurs du Rassemblement national sur la pelouse. Ça, c'est insurmontable pour des parlementaires de gauche, le socialiste Boris Vallaud.
Est-ce qu'on va faire croire que nous pouvons être coéquipiers sur le terrain alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle ?
Et côté Rassemblement National, évidemment, on a réagi juste avant le match, le député Julien Oudoul.
On va laisser les haineux patauger dans leur haine. Nous, on a un beau match, on a une belle cause. Donc nous, c'est tout ce qui nous intéresse. On est dans l'équipe de France parlementaire, avec d'autres députés, collègues, d'autres partis politiques. C'est ça la République aussi, c'est de se rassembler pour des causes au-delà des clivages partisans. Je salue qu'il y ait de l'intelligence, qu'il y ait de la responsabilité parmi les rangs de la majorité. Le sectarisme bête et méchant... Encore une fois, les Français considèrent que ça n'a pas lieu d'être. Il y a une cause à défendre. On est élus de la nation, on a tous le même maillot. On est député, on a été élu par le peuple. Il est légitime qu'on soit d'une part représenté et qu'on puisse tous ensemble participer à ce genre d'événement et de match caritatif.
Et puis un grand déçu dans l'histoire aussi, l'organisateur du match, le député Renaissance Carl Olive, qui regrette une instrumentalisation. On est face à du sectarisme, Guylaine Hottenheimer.
Moi, je pense que les députés, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, du boomerang. Ils nous ont voulu pendant des années se faire plaisir. On est dans des matchs caritatifs entre nous, parce qu'on sait très bien que les députés se crient dessus dans l'hémicycle, et puis derrière, à la buvette, etc. Ils sont très copains, ils vont jouer au foot pour des missions caritatives, etc. Alors là, maintenant, c'est difficile parce qu'évidemment, il y a le Rassemblement National. Alors, c'est difficile d'avoir l'air d'être copains. Moi, je pense que les parlementaires n'ont pas à jouer des matchs de fou pour des opérations caritatives. C'est pas leur mandat.
Ça fait mélange des genres.
Mais c'est pas leur mandat. Je veux dire, déjà, il y a tellement d'absentéistes, ils ont tellement pas pris en charge leur mission. Je veux dire, qu'ils contrôlent le gouvernement, qu'ils fassent des missions, qu'ils fassent des vraies propositions, qu'ils participent au débat, qu'ils soient présents à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas du tout, ça ne m'intéresse pas que mon député aille jouer au foot pour donner de l'argent. Mais s'il veut donner de l'argent, qu'il en donne.
Jeannette Bougrabe, un député en short, ça vous choque ?
Non, parce que ça fait partie des actions caritatives.
Sympathique !
Oui, mais ce que je trouve assez détestable, c'est que... sincèrement, la réaction de LFI et je crois qu'Aurore Berger s'est également exprimée.
Elle déconseille.
Oui, mais qu'est-ce que.
Comment députés de la majorité d'aller se mettre au côté.
Il y a des réformes importantes, s'ils n'arrivent même pas sur des. Le sport, normalement, c'est ce qui permet d'être unis. Voilà. Ils sont élus de la nation.
Pas à n'importe quel prix.
Non, mais jouer.
Être une équipe, qui joue contre.
Attendez,
être élus dans la même équipe.
Non, mais attendez.
Contre,
attendez. Si on me l'a juste terminé. Si on me l'a juste terminé. Faut balayer devant sa porte. C'est-à-dire que ces derniers temps, les images d'Europe Écologie Les Verts en matière de violence faite aux femmes, aux LFI, s'ils étaient exemplaires, je veux bien. En l'occurrence là, autant que je sache, il y a des réformes qui sont des réformes qui peuvent être justes et on peut se mettre d'accord. Et c'est pas parce qu'il appartient à tel parti qu'on va pas accepter des voix de parlementaires parce qu'ils sont à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Je trouverais ça détestable que, par exemple, un texte, par exemple, on va en parler tout à l'heure sur la question de l'exploitation des femmes, s'il y a des voix d'extrême droite, où est le problème ? Je comprends même pas.
Mais personne ne les a refusées, les voix, quand elles se joignent.
Là, en se disant que c'est tellement ignoble d'être à côté ou de jouer avec quelqu'un qui a été élu par le suffrage universel. On peut pas. C'est une violence, d'un rejet sur quelque chose.
Moi,
par exemple,
j'aurais peut-être pas envie de participer à un match avec un journal d'extrême droite.
Alors, oui, c'est vrai aussi que les députés Rassemblement National cherchent à avoir l'air respectable, à se normaliser, comme on dit. C'est vrai que c'est une stratégie.
Mais il y a deux poids, deux mesures, surtout.
C'est-à-dire
On a
vraiment une attitude dans le Sénat parlementaire qui est totalement différente de ce match amical. Match amical où justement on est censé quand même essayer
caritatif.
Caritatif, où on est quand même censé essayer de mettre de côté les étiquettes politiques, de voilà, d'être dans le sport, justement. Je rejoins l'idée de pas forcément avoir envie de travailler ensemble, ou etc. Mais alors, à ce moment-là, que le LFI, par la voix de Manuel Bompard, ne dise pas qu'il va voter la motion de censure qui va être proposée par le RN. Parce que, dans ce cas-là, sur des questions aussi graves que la coalition parlementaire des oppositions, on arrive à se mettre d'accord, et après, pour se passer un ballon, on ne veut pas avoir l'air... Je reprends quand même les mots des députés de gauche qui disent « on ne veut pas leur passer la balle ». Mais voilà, il y a quand même un moment où il faut être sérieux sur la ligne qu'on tient. C'est-à-dire, soit on la tient au cénacle parlementaire, et je suis encore une fois pas sûre que ce soit le message qu'ont donné les Français, parce qu'en vous donnant une majorité relative, ça veut quand même signifier que vous êtes parfois amené à faire des compromis, à accepter des amendements des uns et des autres, et je crois que ça fait quand même partie de la démocratie. Encore une fois, ça c'est un point de vue, mais on ne peut pas faire quelque chose dans le cénacle parlementaire qu'on ne fait pas ensuite dans un cercle encore plus amicable et dépolitisé du match de foot.
Deux poids, deux mesures de l'extrême gauche et de l'extrême droite n'est plus tenable. Enfin, sincèrement,
c'est plus crédible. Ça dépend ce que vous pensez du rassemblement.
On marque une petite pause. On marque une petite pause et on continue notre conversation autour de ce match de football caritatif de l'Assemblée nationale. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes ce soir avec Anne-Charlène Bézina, Guylaine Hautenheimer et Jeannette Bougram. Nous évoquons ce match de foot qui est en cours. L'équipe de France de l'Assemblée nationale affronte une sélection d'anciens joueurs professionnels au profit de la lutte contre le cyberharcèlement. Côté député, il n'y a pas d'insoumis, pas de socialistes, pas d'écologistes, parce qu'il y a des joueurs du Rassemblement national dans le 11 de départ. Alors, qu'est-ce qui a pu provoquer ce boycott de dernière minute, hein, parce que l'insoumis Éric Coquerel, par exemple, avait prévu de jouer ce match. Est-ce que c'est l'affaire Bayou, l'affaire Quatennens? Comme ça, on parle d'autre chose.
Bien sûr. En plus, Coquerel, comme c'est, il a quand même quelques critiques, mais ce que je voulais dire, je sais que vous ne vouliez pas, mais le sport a cette vertu, en tout cas, de pouvoir réconcilier les gens. Et je disais, alors peut-être que c'est très loin, mais je sais que vous ne vouliez pas que je le dise.
Mais je vous en prie.
Mais souvenez-vous de ce qu'a fait Mandela avec le rugby. Le rugby où il n'y avait pas un seul joueur noir dans l'équipe de rugby. Alors tout le monde se souvient du film Invictus, etc. Le sport permet quand même, et c'est un peu de permettre de la réconciliation. Si en Afrique du Sud, si le grand Mandela, qui a passé des années en prison, a été capable de dire « Eh bien, il faut justement, je vais venir dans cette équipe de rugby qui était pourtant le symbole, en réalité, de l'apartheid », c'est-à-dire que si à Paris, ils ne sont pas capables entre eux de jouer ensemble, eh bien, on n'est pas prêt de s'en sortir.
Voilà. J'ai une citation. Comparer quand même l'hémicycle avec l'apartheid.
Non, j'ai pas dit ça.
Le sport a des vertus de dépassement.
Je voulais vous faire une citation. L'Assemblée est un lieu de confrontation d'idées, mais à travers ce 15 parlementaires, c'est l'occasion de rencontrer d'autres députés, de les voir autrement, d'échanger avec eux. Ça, c'est Monsieur Corbière, insoumis, qui l'avait déclaré à la fin d'un match du 15 parlementaire. Alors cette fois, c'est du rugby. Bah, il avait fait équipe avec un certain Louis Alliot.
C'était quand ça?
C'était il y a 3 ans.
Ben oui.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des parlementaires de gauche?
Imaginez, en même temps, vous avez la photo du match avec à la fin tout le monde avec le ballon devant et le maillot et tout le monde bras dessus, bras dessous. Mais vous racontez aussi ce que aurait pu être la critique. Ils se confrontent à l'Assemblée, mais en fait ils sont tous copains. C'est comme quand on commence à raconter ce qui se passe à la buvette, etc. Qui se tutoient, qui prennent un verre ensemble.
Ça fait copinage.
On peut pas non plus se poser en adversaire absolu de l'extrême droite et en plus après aller jouer au foot bras dessus bras dessous. Les Français aussi pourraient avoir des raisons de critiquer, de s'indigner.
Je suis un peu dubitatif sur ce point de vue, même si je comprends l'idée de l'image. Mais en soi, je trouve qu'on manque quand même cruellement en France de ce qu'on appelle une culture d'opposition. Je veux dire, en Grande-Bretagne, on a des shadow cabinets, c'est-à-dire qu'on a des députés qui font face aux autres députés pour leur montrer la défiance politique, etc. Mais si l'opposition, maintenant, c'est de dire qu'on ne peut pas être photographié avec des gens, et si on considère que du coup, on met forcément des cordons sanitaires entre certains partis et certains autres, à ce moment-là, il ne fallait pas en arriver à les faire rentrer à l'Assemblée nationale, puisque je rappelle quand même que le principe même de l'élection d'Emmanuel Macron au départ, c'était de dire qu'on centrise le débat pour arriver à éviter les extrêmes. on n'a pas réussi. Donc aujourd'hui, est-ce que l'image consiste en la nouvelle politique ? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, pour faire de la politique, il faut sortir de l'hémicycle en ne se serrant pas la main ? Moi, je crois quand même que la vertu de l'opposition, c'est aussi parfois pouvoir
se tirer la main dans l'hémicycle,
aller dans les buvettes et discuter d'un amendement et arriver à quelque chose. Moi, il y a un moment où je pense que le travail parlementaire, l'idée de proposer des choses constructives, c'est quand même... Alors, je ne parle pas pour le RM, je ne parle pas pour le LFI, je parle vraiment sous toute la Ve République. Je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter les postures pour être vraiment dans la construction, dans le droit et dans la politique.
Vous êtes en train de déplacer le débat sur comment se comporter à l'Assemblée, comment construire des majorités.
Non,
comment
on parle quand même de ça.
On est en train de parler de la participation à un match de foot. Moi, je ne suis pas en train de...
Mais pour des partis qui travaillent ensemble au Parlement.
Comment on se comporte quand on est un parti de gouvernement et comment on se comporte quand on est un parti d'opposition. C'est un autre débat.
Mais ce sont
c'est
des partis qui travaillent ensemble.
Là,
donc ils sont censés montrer qu'ils peuvent travailler ensemble.
J'ai très envie de passer le ballon et d'échanger mon t-shirt.
On est censé travailler ensemble.
Avec ce qui est pour moi l'horreur absolue. Je dis pour moi, pour un député de gauche, socialiste, communiste ou n'importe quoi. Pour eux, vraiment, l'extrême droite, c'est l'horreur absolue. D'abord, ils leur ont piqué les électeurs et ensuite, ils sont à l'opposition.
Si les parlementaires de gauche n'avaient pas boycotté ce match, ça serait passé inaperçu en réalité.
Pas forcément. Oui, mais enfin, vous savez pas.
Quand on lit le député La France Insoumise du Nord, Hugo Bernalici, qui dit qu'il préfère jouer en prison qu'avec le Rassemblement National, ça fait très.
Mais il y a des excès. Non, mais il y a qu'il aille en prison. Il y a des cons partout.
Ça fait récupération.
Non, mais qu'il aille. Enfin,
Janet Bougrabe.
Comment. Enfin, de se dire que tous les élus de Rassemblement National sont des salauds par nature, alors que LFI, ce sont des saints. Cette image-là et ce manichéïsme est inacceptable. C'est pas parce que... Moi, là-dessus, je refuse de le voir, et la preuve en est. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe et tous les déchirements qu'il y a au sein d'Europe Écologie Les Verts, avec leur espèce de tribunal interne, ou LFI, etc. Moi, je suis désolée, je refuse de juger les gens. On juge les personnes individuellement. On va pas dire, je te parle pas parce que toi, tu adhères à telle chose. Enfin, ça ne peut... Comment amener certaines personnes à les convaincre de la justesse d'une idée si on leur dit « moi, je ne te parle pas parce que tu as fait ça ». Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas été coupables, ils n'ont pas été poursuivis, ils ont été élus. Ils ont été élus de la nation. Alors si juste ça veut dire qu'on doit les blacklister, on doit les ignorer, on doit les mépriser, même être photo à côté d'eux, c'est infâme, alors là, j'en sais rien. Et sur la question... des crimes de l'extrême gauche, je sais bien qu'on vous refuse de le dire, mais les crimes du stalinisme ou du communisme ou de Mao ou des Khmers rouges.
On va pas savoir si c'est pire le nazisme ou le stalinisme. On n'est pas dans ce débat-là. C'est un tout petit truc. Ils n'ont pas envie d'aller à un match de foot. Il y a de la récupération des deux côtés. Le Rassemblement National était très content de montrer qu'ils appartenaient à la communauté de l'Assemblée nationale et qu'ils n'avaient plus rien de différent. Juste quand même que c'est un parti nationaliste et quand même profondément raciste, parce que quand vous êtes rentré dans le cœur du système...
Alors que l'extrême gauche
l'extrême gauche,
c'est des gens sur les questions de laïcité,
Mais il ne s'agit pas d'adhérer à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Je comprends que l'extrême droite n'ait pas envie de jouer avec l'extrême droite.
Si c'est vraiment un petit truc, on en parle beaucoup quand même pour un petit truc. Donc je pense quand même que ça sert...
La France Insoumise et le Rassemblement National affichent leur désaccord autour d'un match de football. Ils vont probablement montrer leur accord contre une réforme qui sera discutée à l'Assemblée nationale très prochainement, la bien nommée réforme des retraites, soirée décisive pour celle-ci, en tout cas pour la méthode, comment la faire passer. Le président, vous savez, reçoit à l'Élysée ce soir les leaders de sa majorité. Au menu, c'est retraite pour tout le monde. Emmanuel Macron, malgré les couacs, les dissensions, maintient son objectif, faire entrer la réforme des retraites à l'été 2023, donc en juillet prochain. Comment ? Ça, c'est la grande question. Soit un texte classique nécessitant un 49-3, soit un amendement du projet de loi de finances de la Sécurité sociale nécessitant un 49-3, soit, et on l'apprend dans le canard enchaîné du jour, un amendement à un possible projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificatif nécessitant là aussi un 49-3. Si cette réforme échoue, ça va être compliqué de gouverner pour Emmanuel Macron, Guylaine Otten-Heimer.
Moi, je comprends qu'il a envie de faire cette réforme. D'abord, c'est un marqueur de droite. Il a envie de donner des signes. Il a envie de montrer qu'il bouge, qu'il n'est pas complètement coincé par, ça, par le fait qu'il n'ait pas de majorité absolue à l'Assemblée. Et je comprends qu'en matière de finances publiques, c'est quelque chose qu'il faille faire parce que d'un autre côté, ils sont en train de lâcher beaucoup de choses sur le budget. Et les Républicains, qui sont leur principal allié, sont en train de quand même faire la grimace parce que voilà, ils voient que derrière, il y aura quand même beaucoup de déficits. Mais ce que je n'aime pas dans la façon de faire, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de voir. Alors, si on met juste un article dans le projet de loi sur la truc, et puis sur le budget de la sécurité sociale, puis alors on ferait une autre loi en janvier, mais alors on pourrait aussi la faire en décembre. Voilà, je veux dire.
Ça l'a mis en colère,
non, mais
le président.
Ça mérite autre chose. Je veux dire, ça mérite autre chose. Ça mérite clairement avec qui je fais cette réforme. Je me mets d'accord avec les Républicains puisque c'est mes principaux alliés. Qu'est-ce qu'ils demandent? Jusqu'où je vais? Est-ce qu'il y a des socialistes qui veulent participer à la réforme? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils demandent? Monsieur Bayrou, qu'est-ce qu'ils demandent? Et on se met autour de la table et on essaye de faire une majorité de projets. Là, on a l'impression quand même que c'est vraiment de la tactique. Voilà, c'est vraiment des technos qui disent là on va passer avec le 49-3 sans le dire ça. Non, ça mérite une majorité.
Bah c'est que le président n'a pas véritablement changé dans sa méthode. C'est-à-dire que comme son Conseil national de la Renaissance a échoué,
la refondation.
Autant le lapsus.
Le CNR. Voilà.
Mais ça, c'est les mêmes lettres.
Que même Laurent Berger qui est allé, qui a décidé et fou de rage. J'entendais, je crois, c'était ce matin, le secrétaire général de la CGT, c'est qu'il a du mal avec le débat, avec le consensus. Justement, en fait, quand on a une majorité qui n'est pas une majorité absolue, on essaye de débattre, de discuter, et on n'utilise pas les mécanismes qui ont été introduits par la Ve République, justement pour la rationalisation du régime parlementaire, quand on a une majorité extrêmement disparate. Là, on peut discuter, mais en réalité, le pouvoir demeure très vertical. Alors, la réforme, elle est nécessaire. Moi, je pense qu'elle est importante, qu'il a raison de la remettre sur le métier. Mais la manière dont il fait, c'est quand même une forme, pas de, entre guillemets, de hold-up, mais un peu quand même.
Est-ce qu'on n'a pas beaucoup parlé déjà? Est-ce qu'on ne s'est pas beaucoup déjà concerté? Ça fait longtemps qu'on entend parler de cette réforme des retraites. Ça fait longtemps qu'on a compris que le système était déficitaire et qu'il allait falloir travailler plus longtemps.
Alors moi, pour moi, il y a le faire et le savoir-faire, d'accord? Donc le faire, c'est quoi déjà? Sur quoi est-ce qu'on est d'accord? Quel est le but de ce projet? Est-ce que c'est l'allongement de la durée de cotisation? Est-ce que c'est l'âge qui change? Est-ce que finalement on en profite aussi pour remettre à plat certains des régimes spéciaux? Est-ce qu'on enterre complètement la précédente réforme des retraites ou est-ce qu'on en garde quelque chose? Est-ce que la retraite à points, ça disparaît complètement? On n'a absolument aucune information sur le fond. Alors on nous reproche souvent de commenter trop la méthode, mais on ne nous donne que ça. On n'a absolument aucune information sur le fond. Alors pourtant, que si on est capable de dégainer un amendement sur un PLFSS en moins de 25 jours, c'est bien qu'un projet est déjà ficelé. Donc je pense qu'il est important de dire aux Français quel est le fond de cette réforme, ce sur quoi elle va faire mal, ce sur quoi elle va faire du bien, ce sur quoi elle est nécessaire, les chiffres. Et je pense qu'il est important de s'engager. Ce pourquoi la méthode, le savoir-faire me semble être particulièrement problématique ici. Notamment parce que un amendement dans le PLFSS ou le PLRFSS, c'est-à-dire celui de règlement, me semble un peu problématique parce que déjà ce sont des lois financières avec un périmètre bien déterminé. Et je crois que le gouvernement sous-estime la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le périmètre de ces lois de financement, qui est bien précis et sur lequel normalement on ne peut avoir que des éléments qui modifient l'équilibre budgétaire de la sécurité sociale. Donc là, ça serait le cas. Mais par exemple, vous ne pouvez pas y intégrer les régimes spéciaux. Vous ne pouvez pas y intégrer la retraite à points, la capitalisation. Donc attention au périmètre, attention au choix du projet de loi et attention aussi à ce sur quoi on s'engage. Je crois que c'est vraiment important d'en parler.
C'est le charme de la majorité relative. Anne-Charlène Bézina, Guylaine Hottenheimer et Jeannette Bougrab sont avec nous ce soir. Nos discussions reprennent dans quelques instants. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes avec Anne-Charlène Bézina, Guylaine Hottenheimer et Jeannette Bougrab. Ils visent à créer l'électrochoc. Quatre sénatrices présentent aujourd'hui leur rapport sur l'industrie du porno. Le tout premier du genre à ce niveau, on peut s'interroger sur ce retard parce qu'à l'ère d'Internet, de l'accessibilité éclair à une pornographie toujours plus violente, toujours plus choquante, plus dévastatrice pour les plus jeunes. Le rapport l'indique, 2/3 des mineurs de moins de 15 ans, 1/3 des moins de 13 ans ont déjà été exposés à de la pornographie.
Pourquoi a-t-on mis autant de temps à sortir un rapport au niveau parlementaire, Jeannette Bougram?
Alors,
vous connaissez bien le sujet.
Non, pas parce que la pornographie, c'est
que vous avez déjà écrit des rapports dessus.
Quand j'étais secrétaire nationale quand j'étais secrétaire d'État à la jeunesse il y a plus de 10 ans, avec Israël Nizan, qui était chef du service de gynécologie obstétrique du CHU de Strasbourg, nous avions fait un livre chez Odile Jacob, en fait, pour dénoncer justement cet impact en réalité sur les adolescents et la pornographie. Et la manière dont on devait parler de la sexualité aux enfants, aux adolescents, et que leur première en fait, éducation passait par une image pornographique extrêmement violente. Moi, je voulais rendre hommage quand même à ces 4 sénatrices, parce qu'on a parlé des garçons qui jouent au foot, mais en fait, celles qui ont bossé en réalité sur un sujet difficile. Et il y a cette enquête du Monde qui est parue aujourd'hui sur de la traite d'êtres humains, parce que c'est ça en réalité.
Il y a les enfants, il y a les femmes, évidemment.
Le rapport des sénatrices est remarquable, mais ce n'est pas le premier rapport remarquable qu'elles font, parce qu'elles en avaient fait un autre, d'autres sénatrices sur la question des mutilations génitales. Elles s'occupent d'un sujet qui est crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, elles dénoncent les violences, les viols, les agressions dont sont victimes ces femmes qui sont exploitées, parce que derrière l'image du porno, de l'idée qu'il y a le consentement, etc., il ne faut quand même pas se leurrer, il y a de la traite d'êtres humains. Et de l'autre côté, des enfants qui sont exposés à des images extrêmement violentes et qui pensent que la sexualité, c'est éventuellement de tabasser son partenaire. Donc il y a quand même un véritable problème. Et que je trouve qu'elles ont eu le courage. On s'est parfois un peu moqué d'elles parce que mais je trouve qu'elles sont courageuses. Et les deux scandales qui donnent lieu à des informations judiciaires, c'était l'affaire du French Bunkake et Jackie Michel, montrent bien, elles pointent du doigt deux choses dramatiques, à savoir la traite d'êtres humains et les agressions sexuelles, et de l'autre côté, cet impact qu'on a sur les jeunes qui ont accès très librement à la pornographie.
Voilà, les femmes, souvent jeunes, abusées, violées, et qui n'arrivent pas à faire supprimer les images quand elles le souhaitent, parce que souvent, c'est ce qu'on a appris dans une enquête très fouillée du Monde parue ces derniers mois, elles perdent leur travail, etc., etc. Guylaine Ottenheimer, est-ce qu'on va vers tout simplement l'interdiction pure et simple de la pornographie?
Non, on va la réglementer.
On a vraiment basculé, hein, 2006, oui. Quand YouPorn arrive, voilà.
Je vous interdirai jamais complètement, la prohibition, ça marche pas. Il faut d'abord réglementer. Il faut savoir que, par exemple, ces jeunes femmes, elles sont hameçonnées, c'est-à-dire que c'est des filles qui sont hameçonnées par une fausse copine sur Internet, elles ont des problèmes d'argent, tu vas faire une petite vidéo pour quelqu'un qui est privé, ça sera montré juste à un client canadien, et en fait, c'est sur tous les réseaux porno du monde entier. Donc effectivement, des gens découvrent qu'est-ce qu'elles ont fait, elles perdent leur boulot, elles demandent à retirer, on leur demande 10 fois la somme qu'elles ont gagnée pour le faire retirer, puis en fait c'est pas retiré. Enfin c'est sordide, on pourrait écrire un Germinal là-dessus, parce qu'on voit que quand même il y a de la misère, il y a des femmes qui sont vraiment dans un état de solitude, de manipulation, etc. Et deuxième chose, la chose qui est très grave, et c'est là où je pense que la réglementation doit être la plus sévère, c'est pour les conséquences que ça a pour les adolescents. Comme le disait Jeannette Bougrad, non seulement les enfants ont une vision de la sexualité qui est complètement tronquée,
déformée,
surtout les mâles, les garçons, donc ça donne des... Et ça a des conséquences aussi extrêmement profondes. Moi, j'ai discuté avec une grande gynécologue qui disait que les jeunes avaient beaucoup, beaucoup moins de rapports sexuels que la génération 70, etc. Parce qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone à regarder du porno ou à scroller autre chose. Mais je veux dire, c'est toute une les relations humaines sont en train de changer. En fait, les relations de couple de les jeunes sont en train de changer. Et je pense qu'il faut quand même... C'est une affaire de santé publique.
Anne-Charlotte Bézina, la loi ne protège pas les enfants aujourd'hui?
Non, alors si, en réalité, il y a déjà de la législation pénale, il y a déjà de la législation applicable en la matière qui n'est jamais appliquée. Et moi, je voudrais dire un mot à propos de ce rapport qui, moi, me fait plaisir par rapport aux politiques. C'est-à-dire que souvent, la politique suit les questions de société et non l'inverse, alors que c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est normalement aux politiques à se saisir d'un dossier et d'en faire une question de société. Et là, on a vraiment des scandales qui ont éclaté, qui ont permis que ce rapport voit le jour et que des proposition, force de proposition soit faite. Donc vraiment, je crois qu'on peut être fier du travail qui a été fait, parce qu'en plus, c'est pas seulement un rapport qui constate, c'est un rapport très fouillé, vraiment un rapport d'enquête, mais c'est aussi un rapport qui propose, et qui propose enfin des mesures concrètes, et notamment de faire de la lutte contre les violences pornographiques et aussi de la question de la vie, du fait de voir ces vidéos par les enfants, une question de priorité nationale et une question dans le débat public. Et je crois que c'est intéressant qu'elle émerge enfin comme une question urgente, parce qu'en réalité l'urgence elle est déjà constatée depuis des années et qu'il faut arriver à régler. L'enfance, c'est le berceau de la démocratie, et si on n'arrive pas à régler notre problème avec ce qu'on offre comme image à nos enfants, je pense vraiment qu'on peut pas évoluer dans une société sereine, et c'est vraiment très important
problème,
sur ces questions-là.
C'est la question de l'Internet, des réseaux sociaux, de faire en sorte comment effectivement ils ont tous des smartphones, etc. Donc ils ont accès
très très vite.
Et donc on leur demande à l'entrée, est-ce que vous avez 18 ans, et clique oui, et puis voilà, ils sont dessus.
Si on l'interdit en France, ils iront sur un site belge ou autrichien. C'est très compliqué.
Non, c'est extrêmement difficile de protéger en réalité les mineurs, en réalité, des images pornographiques. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est en réalité toute la production pornographique. Ça, on peut contrôler un certain nombre de choses. Et ce qu'on avait essayé de faire, mais je crois que on n'avait pas été suivi sur plein de choses, on n'avait pas été suivi, c'était les fournisseurs Internet. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était de couper le flux, en fait. Et ça, YouPorn est en train de nettoyer un peu.
Qu'il faudrait trouver un système, mais je suppose que c'est possible, informatiquement parlant,
possible,
de faire en sorte que trouver sa majorité soit possible.
Oui, c'est plus compliqué que ça.
On donne bien son nom de carte de crédit. Il doit y avoir des moyens d'avoir une carte d'identité qui justifie que vous avez tel âge. Parce que, effectivement, si on commence
déjà
à dire, si on laisse ouvert le robinet, il y aura toujours des gosses qui tomberont, ne serait-ce que par hasard, d'ailleurs, quelquefois.
C'est quand même important que ça tombe dans le débat. Je trouve que, indépendamment des moyens qu'on peut trouver, parce que c'est vrai que la législation sur l'Internet, de toute façon, elle est toujours en porte-à-faux avec la faille qui existe entre le fait de vouloir juridiciser ce domaine et l'excellence, en fait, des personnes qui peuvent craquer toutes les règles que vous allez finalement installer. Donc, il y a évidemment ce paradoxe-là, c'est-à-dire que légiférer sur Internet, c'est entrer dans la boîte de Pandore. Mais, installer ça comme une évidence.
Question de société. Il y a une chose qui n'a pas besoin de légiférer. Là, il y a de l'exploitation d'êtres humains. Il y a du trafic d'êtres humains. Il y a des viols. Il y a des femmes sur des tournages.
Peut-être qu'il y a certaines scènes qui peuvent être interdites. Il y a le porno et porno. Dans le porno classique, il n'y a pas non plus des viols etc. Parce que là, si j'ai bien compris, ils arrivent à faire des films porno où il faut des filles qui n'aient jamais tourné et les prendre de surprise et simuler des viols. Je veux dire, peut-être que ça, on peut légiférer. Peut-être qu'un viol ne peut pas être filmé et diffusé. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un moment.
C'est l'une des rapporteuses, Laurence Rossignol, la socialiste, qui le précise. Ce porno éthique représente, selon son estimation, 0,001% de la production pornographique d'aujourd'hui.
Parce qu'il y a l'idée...
Il nous reste 30 secondes. Jeanne, le programme.
Non. Le vrai sujet, c'est protéger ces femmes ou ces hommes qui font ce qui... Moi, je ne porte aucun jugement, et qui se retrouvent à être filmés, à être agressés, alors qu'ils disent non et qu'on les agresse. Et ça, il doit y avoir une vigilance, et on doit accepter de porter plainte et d'emmener au judiciaire ces faits-là, qui sont des faits graves et qui peuvent être pénalement poursuivis. Voilà.
Merci Jeannette Bougrabe, essayiste et ancienne secrétaire d'État. Merci Anne-Charlotte Bézina, constitutionnaliste et politologue. Merci Guylaine Hautenheimer, rédactrice en chef à Challenge. C'était le débat d'Europe Soir. Dans quelques instants, votre grande soirée sport sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.